Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlotte avec Grégotte. Mon invité du jour est Eva Dourte, une combattante professionnelle de MMA. On parle de son parcours, de son enfance, comment elle est arrivée au MMA. Donc elle est passée par le judo, le rugby, elle est rentrée dans la marine nationale à 18 ans, puis elle est devenue prof de sport dans la marine nationale. On parle de son approche de l'entraînement, comment elle gère la préparation d'un combat, son entraînement physique, sa diététique, la sèche, enfin voilà. Donc c'est un podcast un peu plus court que d'habitude, mais assez condensé, avec pas mal d'infos intéressantes. Donc, je te souhaite une bonne écoute. The moment you have been waiting for. It's time! Parlotte avec Grégotte.
Ok, bah écoute, je suis hyper content de t'avoir avec moi. Déjà parce que t'es la première femme sur le podcast. Et je trouve ça trop dommage que les femmes soient sous-représentées dans le sport de manière générale, tu vois, et surtout dans les arts martiaux et les sports de combat. Donc, on va pouvoir un peu parler de ton parcours, comment t'en es arrivé là et tout, parce que des sports comme ça, t'as un parcours avec beaucoup de sports quand même de contact assez important. Donc, c'est pas la norme, tu vois, sans rentrer dans le cliché, chez les femmes, de se diriger vers ce type d'activité. Donc, on va essayer de voir un petit peu comment ça se fait que tu t'es dirigé vers ce type de sport. T'as commencé par le judo ?
Ouais, c'est ça. J'ai fait 17 ans de judo.
Ok.
J'ai commencé parce que mon frère en faisait.
Donc, d'accord.
Du coup, je voulais faire comme lui.
Ça t'a donné envie. C'était un peu la bagarre avec le frérot.
Ouais, tout le temps.
Tout le temps.
tout le temps. Et j'aimais pas qu'il soit plus fort que moi. Hein.
D'accord. C'est un grand frère, c'est ça ?
Ouais, c'est un grand frère. Ouais, ouais.
T'as un seul frère ou ?
Oui, j'en ai qu'un.
Un seul frère.
Ça d'accord. Suffit.
Hein. C'était déjà pas mal. Ouais. Ok. Du coup, toi, t'habitais où dans ton enfance ?
Alors, en Charente-Maritime.
Charente-Maritime.
Mais plus dans les terres.
D'accord.
Donc, ouais, j'étais plus dans la campagne. Un peu profonde.
J'ai vu que tu étais née à Lormont.
Lormont, ouais, oui. Donc,
que je connais à côté de Bordeaux.
Voilà, c'est
j'ai
ça.
Une amie qui habite là-bas. Donc,
Et à l'âge de 2 ans, on est remonté en Charente-Maritime rejoindre le reste de la famille. Ouais.
Et donc, c'était un petit club de judo.
Oui, voilà, on était une petite quinzaine.
Ouais.
Voilà, c'était ça.
Mais quand même orienté compète.
Oui, voilà.
Ouais.
Très compète.
Parce que t'as fait pas mal de compète, je crois.
Ouais, voilà.
Ouais.
Je suis montée, je fais compète nationale, tout ça.
Nationale.
Je fais la France, tout ça. Mm-hmm.
T'as vu des résultats ?
Ouais, j'étais. Enfin. Pas tant que ça.
Ouais.
Voilà, j'ai fait pas mal au championnat de France, tout ça. Mais le judo, c'est... Je sentais qu'il me manquait quelque chose.
D'accord.
Voilà. J'aimais bien le fait, la compète, un peu le combat, tout ça. Mais, mais je sentais qu'il me manquait quelque chose.
Ok. Ouais. Mais t'as quand même fait 17 ans.
Ouais, parce que alors, pour moi, je voulais faire un autre sport. Mais je me dis, ouais, mais je sais rien faire d'autre. Du coup, bon, je reste dedans.
Ouais, et t'avais peut-être pas aussi vachement de choix non plus là où t'étais.
Ouais, non, c'était ça, le foot. C'était hors de question que je fasse du foot hein, avec mon père.
Pourquoi ?
Oh là là. j'en ai fait un petit peu pendant 2 ans. Et un jour, mon père m'a dit va falloir que tu choisisses, soit c'est le judo, soit c'est le foot. Du coup, j'ai dit c'est le foot. Il m'a dit non, c'est le judo.
Il va falloir que tu choisisses et je choisis pour
voilà,
toi.
Voilà, c'est ça. Mais au final, aujourd'hui, je le remercie, puisque sinon, j'en serais pas arrivé là. Hein,
ouais, mais c'est vrai que c'est un débat. Ça, moi, comme je vais avoir bientôt une petite fille, tu vois, d'ailleurs, et c'est le débat de se dire, est-ce que tu forces un peu les enfants à faire certaines choses parce que tu sais que ce sera bien pour eux pour plus tard, tu vois, ou est-ce que tu les laisses simplement faire ce qu'ils ont envie?
Moi, sincèrement, bon, j'ai pas d'enfant, hein, mais je pense que si on perçoit que l'enfant s'éclate un peu aussi dedans et que s'il continue, ça peut lui rendre service, je pense que c'est bien d'appuyer un petit peu parce que des fois, les enfants, ils sont un peu perdus et puis au niveau de l'adolescence, on essaie de... Bah, on a envie de découvrir d'autres choses, on en a vite marre, on est un peu... Donc ouais, c'est... Non, je trouve
C'est vrai que je pense qu'il faut garder une notion plaisir et tout, mais... Moi, je sais que j'aurais aimé qu'on me force à faire certaines choses parce qu'aujourd'hui, je galère sur des trucs, tu vois, genre un peu de cirque ou de gymnastique, des trucs comme ça, où j'aurais rêvé d'être plus à l'aise, tu vois, sur des trucs acrobatiques et
mais ça
et
se trouve, si on t'avait forcé, ça t'aurait dégoûté.
Ça peut, mais si t'en fais au moins quelques années, en fait, c'est plus pour développer un peu, tu vois, des capacités motrices assez larges, tu vois. Et on voit aujourd'hui avec le MMA, il y a quand même aussi, c'est un style qui évolue, qui est hyper créatif. Et je trouve que quand tu as des influences qui viennent même des choses extérieures, tu vois, des arts martiaux, des sports de combat, et que tu as une meilleure mobilité et, tu vois, capacité à te mouvoir parce que tu as fait des choses hyper différentes et hyper intéressantes sur le plan moteur, bah, souvent, tu progresses plus vite, tu es plus à l'aise.
Ouais, exactement, ouais. Tu t'adaptes énormément. Ouais.
Ouais. Et c'est beaucoup vrai que bah, moi, c'est un vrai questionnement et je sais que moi, en tout cas, rétrospectivement, peut-être que sur le moment, en tant qu'enfant, ça ne m'aurait pas plu, mais j'aurais préféré qu'on me force un petit peu. Et je sais qu'Hélène, ma femme, elle trouve que bah, la vie, ce n'est pas que du plaisir tout le temps et que ce n'est pas plus mal non plus d'apprendre que bah, tu vas faire des choses qui vont te plaire, mais tu auras quand même des choses
je
qui ne vont pas te plaire.
Je pense qu'après, dans la vie, il ne faut pas toujours avoir cette notion de plaisir, surtout avec les enfants. Oui, il faut qu'ils sachent se faire plaisir, mais il faut aussi qu'ils apprennent que dans la vie, ce n'est pas que du plaisir.
C'est ça. Ouais.
Donc, je pense que le sport, déjà, c'est une bonne école et que aussi les parents peuvent aussi un peu forcer ou quoi, sur des choses, c'est pas...
Parce que tu vois, moi, c'est vrai que c'est souvent un truc que je me dis, quand on fait 17 ans, tu vois, d'une même discipline, alors on aime ça, oui, mais il y a quand même des moments, surtout si tu fais de la compète, il y a des contraintes, c'est pas toujours marrant, il y a du stress, donc il y a quelque chose d'autre qui est souvent... Enfin, tu reposes pas que sur le plaisir, tu vois, pour continuer pour moi, quoi. C'est quelque chose dans lequel tu t'épanouis, mais c'est pas 100% du plaisir, quoi.
Non.
Et je pense que c'est ça qui développe aussi vachement la force de caractère par la suite, quoi.
Exactement, ouais.
Après, du coup, toi, t'as fait du rugby?
Ouais, voilà, j'ai fait... Alors après, à l'âge de 18 ans, je suis entrée dans la marine nationale. Et c'est la marine qui m'a fait découvrir le rugby.
Ok.
Parce qu'il y avait une équipe militaire marine de rugby. Et du coup, ils m'ont initiée dedans. Je dis ouais, pourquoi pas. Et au final, j'ai adoré. Et comme quoi, les choses sont bien faites. Du coup, c'est ce qui m'a permis de franchir le pas, d'arrêter le judo et de me mettre au rugby.
D'accord.
Voilà.
Et comment ça t'est venu, cette envie de rentrer dans la marine?
Alors, disons que je voulais aller en fac de sport, faire prof de sport dans les collèges, lycées. Et mes parents n'avaient pas assez d'argent pour financer tout ça.
Ok.
Et donc, du coup, la deuxième option, c'était l'armée.
D'accord.
Et sincèrement, la marine, pourquoi? C'est mon père qui m'a conseillé la marine.
Ouais.
Moi, je connais... Enfin, dans la famille, on n'est pas du tout militaire ou quoi, donc je suis un peu allée les yeux fermés.
Ouais.
Mais je regrette pas, parce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait énormément de choses.
Et alors, ça se passe comment? Il y a des examens d'entrée,
Oui, voilà, il y a des tests écrits, tout ça.
Ouais.
Et ensuite, on est pris suivant notre cursus scolaire. Et puis, du coup, après, on rentre comme ça.
Et alors, tu fais quoi dans la marine?
Alors, aujourd'hui, je suis prof de sport.
D'accord.
Dans la marine. Avant, j'étais armurier, donc je m'occupais des... Enfin, mécanicien d'armes, on appelle ça.
Ouais.
Je m'occupais des canons sur les bateaux ou armurier, voilà.
Donc, tu passais pas mal de temps en mer ou...
Ouais, alors j'ai pas mal navigué.
Ouais.
Je suis partie en mission plusieurs fois. Et sinon, aussi à terre, voilà.
D'accord.
Ouais.
C'est vrai que... Enfin, moi, je connais rien à l'armée, mais c'est vrai que quand on se dit marine, on se dit, bah, tu dois passer du temps peut-être en mer, sur un bateau.
Oui, voilà, j'ai passé pas mal de mois. Après, il faut savoir que dans la marine, il n'y a que 30% de marins qui sont embarqués. Hein.
Ouais,
tout le
d'accord.
Reste, ils sont à terre, c'est la logistique, tout ça. Tous les
trucs, et du coup, quand tu partais comme ça, plusieurs mois, ça se passe comment la vie
Alors, c'est assez particulier, puisqu'on est... Alors, il y a différentes sortes de bateaux. Il y a des grands bateaux, des petits bateaux, et c'est assez confiné.
Ouais.
Donc, en fait, on apprend beaucoup l'esprit de cohésion, vivre avec les gens, l'état d'esprit, tout ça, c'est super important.
Ouais.
Et moi, qui suis à l'origine très, très solitaire, c'était un peu compliqué pour moi. Mais j'arrivais tout de même à trouver des moments à rester... Ouais, des moments à moi.
D'accord.
Notamment dans le sport ou quoi, me faire des séances, tout ça. Mais...
En termes des journées, c'était comment du coup tu faisais t'avais un temps de travail genre de 8 heures et du temps libre ensuite
En fait, le matin, on se lève, on déjeune normal. Après, on commence à 8 heures. Hop, à 11 heures, il y a le premier service pour aller manger. Ensuite, le deuxième, c'est à midi. Il y a des bateaux qui font la sieste aussi.
Ouais.
C'est important. Il y en a de moins, il y en a qui font pas. Et ensuite, on finit à 17 heures. Voilà, c'est ça. Et en plus de ça, de son travail, tout le monde, enfin les trois quarts des gens font du quart en mer.
Ouais.
Donc soit pour autour des radars, enfin ils regardent les radars, il y en a qui regardent l'horizon, voir s'il y a les bateaux autour. Enfin, chacun a un poste particulier.
D'accord.
Enfin, spécifique. Et en plus, les journées aussi, on s'entraîne, on simule des exercices d'incendie, des voies d'eau, toutes des choses comme ça. Donc
d'accord.
Tout le temps, on s'entraîne. On, Voilà, jour et nuit.
Et tu avais possibilité de faire aussi de l'entraînement physique. Il y avait un espace...
Oui. Alors, il y a des bateaux, il y a de l'espace. Il y a une salle de sport dédiée. Il y en a, il n'y a pas.
Ouais.
Donc, ça va être dans la coursive. Donc, c'est le couloir.
Ouais.
On fait un peu là ou un peu dehors. En fait, c'est... Franchement, ça m'a beaucoup enrichi puisqu'il fallait trouver des séances de sport en espace restreint.
Mm.
Et c'était très enrichissant de trouver des exercices. Bon, au final, ça se fait. Hein.
Au poids de corps et tout ça, du coup, forcément.
Poids
quoi.
De corps, voilà, c'est ça, ouais. Avec des sangles, des trucs comme ça, beaucoup, ouais.
Et
ouais.
Donc, à ce moment-là, tu t'es, t'étais donc déjà sportive, mais t'étais pas prof de sport dans la marine.
Non, j'étais pas prof de sport. Et après, j'ai fait un changement de spécialité. Et là, pareil, en tant que prof de sport, je suis partie aussi en mer en tant que prof de sport. Parce qu'il y a des bateaux, ils ont des profs de sport.
Ouais.
Et il y en a d'autres, non, hein, pas tous. Et du coup, j'ai eu la chance d'entraîner le personnel de certains bateaux et aussi en escale d'organiser des matchs de foot, de rugby, tout ça avec les locaux et tout. C'était très enrichissant aussi.
Hein. Ah, ok, ouais, sympa.
Mal, ouais.
Du coup, ça fait quand même plusieurs milieux, je trouve, où il doit y avoir une majorité masculine.
Oui, oui, il y a une majorité masculine. Après... les femmes, en général, elles sont assez ouvertes et tout.
Ouais.
Ouvertes dans le sens où, on peut, elles peuvent tout entendre, on peut tout voir. Il y a pas de tabou, quoi.
Ouais.
Donc ça déjà c'est.
Et toi, est-ce que t'as été confronté parce que moi c'est un débat que j'en parle souvent avec ma femme qui est pratiquante aussi de longue date d'arts martiaux et de sport de combat et elle. Il y a des attitudes des fois qui l'énervent un petit peu, côté un peu macho, voilà. Et je trouve ça intéressant en fait d'avoir la vision de quelqu'un qui a passé pas mal de temps justement dans des univers qui peuvent être considérés,
un peu macho.
Et comment t'as géré est-ce que t'as eu des problèmes et si t'en as eu, comment tu les as gérés?
Sincèrement, des problèmes vraiment proprement dit, non. Après, il y a eu un peu de harcèlement et tout, mais rien de vraiment grave. Alors moi à la base j'étais très introvertie.
Ouais.
Oui, j'étais toujours dans mon coin et tout. Je parlais à personne. Et en fait, fur et à mesure, ça m'a appris à répondre, à pas me laisser faire. Donc non, ça apprend. Moi, ça m'a beaucoup appris, ouais. Ouais.
Parce que t'es...
Sinon, je serais pas là en train de te parler. Je serais dans mon coin.
C'est ça.
C'est sûr.
Parce que tu m'as dit que t'étais assez bagarreuse quand t'étais petite.
Oui, je pouvais être... Alors, je suis très calme,
ouais.
Mais autant être très impulsive.
Souvent, les introvertis, c'est ça aussi. C'est que ça sort pas, mais le moment où ça sort...
c'est ça. La petite goutte d'eau. Ouais. Des fois, on comprend pas pourquoi, là, à ce moment-là, mais ça sort là. Ouais.
Et t'aimais le sport depuis que t'étais petite?
Oui, ouais, j'ai...
Tu m'as dit ton histoire là, avec ta mère, qui te faisait faire du gainage et des pompes, c'est ça?
Ouais, dès que je faisais des bêtises ou quoi, ma mère me faisait faire des pompes ou des gainages. Souvent, je lui disais, c'est tout. Alors, elle m'en faisait refaire, au bout d'un moment, bon, ça me calmait, j'en faisais plus.
elle était dans le sport ou parce que c'est
une... Non, pas du tout.
Ah ouais? C'est
pas
marrant, c'est une idée
Je pense
pas
c'est
courante,
avec...
je pense. De...
Non, mais je pense qu'elle a vu que j'aimais bien bouger, machin, et elle a trouvé ça, ouais. Mon père, pareil, pas sportif.
Pas ça qui t'a...
Peut-être qu'avant... Si, apparemment, jadis, ils étaient sportifs. Alors, je les ai jamais vus.
Tu les as jamais vus. C'est une rumeur qui court comme ça, mais...
Ouais, voilà.
On sait pas si c'est vrai.
Bon.
Ok, bon, bah écoute, ça c'est... Moi, ça, je trouve ça intéressant. Le rugby, tu dis que c'est dans la marine, mais alors comment...
Ouais, la marine, et ensuite, j'en ai fait dans le civil, du coup, aussi.
Alors, comment t'es amené à faire du rugby dans la marine?
Alors, en fait, 5-6 fois par an, on faisait des regroupements d'une semaine.
Ouais.
Et donc, c'était des filles, des marinettes. On se rejoignait toutes de toute la France.
Des marinettes.
Et on jouait au rugby contre des équipes civiles, contre D'accord. Bayonne, contre Brest, tout ça, là, voilà.
Ouais.
Et comme ça, on échangeait.
Ok.
Et en fait, j'ai énormément aimé l'état d'esprit, la simplicité. Autant sur le terrain, on pouvait se donner à fond... Le but, c'était de mettre un gros carton à l'autre en face. Et autant à la fin, une fois que le match était terminé, on discutait tout ensemble, on buvait un verre ensemble et tout. C'était... Et j'ai adoré cet état d'esprit, cette ambiance et tout.
Ok, bon, super. Moi, c'est vrai que c'est un truc... je ne suis pas anti-sport collectif du tout, mais les sports d'équipe, ça ne m'a jamais énormément attiré. En fait, J'aime bien, tu vois, dans les arts martiaux sport de combat, on s'entraîne parfois tout seul, mais on s'entraîne aussi en groupe.
Ouais, oui, tout à fait. Ouais.
Donc j'aime bien avoir un groupe, m'entraîner avec du monde et tout ça. Mais je sais pas, moi ça m'a.
Alors moi, ça m'a jamais botté, au début, quoi. Moi le seul sport collectif vraiment que j'aime énormément, donc du coup c'est le rugby parce que au final il y a toujours du contact. Et j'aimais aussi ce sentiment de quand les copines vont pas bien ou sur le terrain, elles sont au bout de leur vie, ben moi je puisse les remonter vers le haut. Et l'inverse, des fois, j'allais pas, c'était pas mon jour, elles arrivaient à me tirer vers le haut. J'étais pas seule, en fait. Que c'est vrai que dans les sports de combat, arts martiaux, bah, quand t'es voilà, sur, en combat ou quoi, bah, t'es seule, entre guillemets. Donc, mais après, de l'autre côté, c'est frustrant de dire, bah, voilà, sur le terrain, tu te donnes à fond.
Ouais.
Et qu'il y en a qui, ils se donnent pas à fond. Et ça, c'est frustrant, par contre. Ouais.
Ça t'appartient pas vraiment.
Oui, voilà.
Que ce soit la réussite, voilà.
Ça dépend pas que de nous, quoi.
Ouais.
Donc ça, c'est un peu frustrant.
Ouais, ça peut être un peu frustrant. Dans un combat, bon, il y a tes coachs qui te préparent, il y a tout ça. Alors, tu peux toujours aller. Enfin, la plupart, je pense, des gens, quand ils sont honnêtes avec eux-mêmes, ils vont plutôt chercher, regarder un peu, faire une introspection, voir qu'est-ce qu'eux, ils ont raté et tout ça. Mais tu peux toujours essayer de remettre la faute sur un coach et tout ça. Mais. Ça reste quand même le jour J, c'est toi qui es toute seule dans la cage ou sur le ring, tu vois. Ça peut pas être la faute de quelqu'un d'autre sur le moment, c'est toi qui.
Oui, et je trouve que c'est bien parce que ça permet vraiment de se remettre en question. Ouais, plus que sur un terrain, parce que sur un terrain de rugby, par exemple, on se dit oui, mais c'est l'autre, là, il m'a pas fait la passe au bon moment ou quoi. On trouvera souvent des excuses que là, il n'y a pas d'excuses.
Ouais, c'est vrai. Moi, je dis souvent que je trouve que les. Le combat, en fait, tu vois la vraie personnalité, tu vois la vraie personne. Tu peux pas te cacher, je trouve, quand tu combats. Tu vois quelqu'un. Je trouve, en fait, moi, je trouve que ça crée des liens, en fait, assez rapides aussi avec tes partenaires d'entraînement, le fait de se taper dessus, bizarrement. Mais parce qu'on. Tu peux pas te cacher. Tu vois, dans un sport d'équipe, je pense que tu peux faire un peu genre. Tu peux prendre un rôle, tout ça, qui n'est pas forcément ta vraie personne. Mais à l'entraînement, en sport de combat, c'est pareil. Tu peux faire genre, machin, tout ça. Mais le moment où tu es en train de faire un combat, là, il n'y a plus. Enfin, pour moi, c'est là qu'on voit qui t'es vraiment, tu vois.
C'est ça. Au rugby, enfin, je vais parler plus de rugby, mais c'est vrai qu'il y en a, s'ils veulent se cacher, ils peuvent se cacher. Après, autant, il y en a qui sont pour autant vrais sur le terrain. Et
ouais,
ça,
bien sûr.
C'est... Voilà, il y a de tout.
Oui, mais c'est sûr.
On peut se cacher
voilà,
par rapport
on peut se cacher.
Au
on peut ne pas
se
cacher aussi,
ou...
mais ouais.
Mais t'as raison, parce que quand tu dis que les combats, ça reflète vraiment la personnalité profonde, puisqu'on est quand même dans un état de stress, on est un instinct, entre guillemets, de survie.
Ouais.
Et du coup, le naturel revient. De toute façon, quoi qu'on fasse.
Mais oui, mais c'est quand même quelque chose d'hyper particulier de se dire bon, bah, je sais que. On ferme la cage, boum, et. Pendant peut-être 25 minutes, si c'est un 5x5, je vais devoir essayer de survivre et de battre la personne qui est en face de moi. Quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est un sport, mais c'est quand même pour moi très à part et très différent de tous les autres sports. Quoi. Là, c'est un truc particulier. C'est pas que, bien sûr, que quelqu'un qui va faire une compétition, même de l'athlétisme, quoi que ce soit, t'as un stress, tout ça. Mais t'as pas la crainte, tu vois, pour ton intégrité physique autant, tu vois, je pense que dans les sports de combat. Après, ouais, je sais pas, les concours, je sais même plus comment ça s'appelle, les skieurs, là, qui font les sauts, machin et tout, là, tu peux avoir les chocottes.
Oui,
tu vois, il y a des, ou même les descentes comme ça en ski, tu sais que tu peux te faire hyper mal. Enfin, c'est toi quand même qui maîtrise aussi.
Ouais, c'est ça. Il n'y a pas forcément de contraintes extérieures.
Ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Alors que là, ça dépend de la personne qui est en face.
Et tout peut arriver.
Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, donc tu faisais le judo, donc c'est quand même un sport de contact. Prendre des projections, ça peut vite... tu le sens bien, quoi. Ça peut vite faire mal. Après, le rugby, c'est aussi un bon niveau de contact. Il y en a qui trouvent que le rugby, c'est quasiment comme un sport de combat.
Oui, d'ailleurs, on dit que c'est un sport de combat collectif.
Ouais, c'est ça. Hein, ça peut être un peu ça.
Ouais, sincèrement, oui.
Ouais. Après, y a quand même une autre frontière à passer, tu vois, de là à commencer à vraiment faire quelque chose avec de la percussion, tu vois. Et comment t'en es venu ? Donc, t'as fait 5 ans de rugby.
En parallèle, j'ai fait du jiu-jitsu brésilien.
Ouais.
parce que j'aime bien faire deux sports différents. J'aime pas. Pour moi, par exemple, le judo, c'était toujours la même chose. Mmh. Le rugby, j'adore ça. Mais pareil, c'était toujours la même chose. Et enfin, il me fallait un peu de...
variété, quoi.
Voilà, exactement. De variété. Et du coup, ouais, aussi, j'ai fait un petit peu de boxe anglaise. Mmh. Un petit peu. Parce qu'en fait, la boxe anglaise, depuis petite, j'ai envie d'en faire.
D'accord.
Et mon père m'a toujours dit non. Enfin, mes parents ont toujours refusé parce qu'ils s'imaginaient, je pense, que j'ai le nez ouais. sur la joue. Là.
Le truc classique.
Alors, et du coup, un jour, j'ai dit, bah voilà, bah maintenant je suis grande, je vais aller essayer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé. Sans savoir en faire, hein, bien sûr. Et puis après, passer le cap, un jour, j'ai dit, bah pourquoi pas aller essayer, quoi. Parce que le rugby, c'est vrai, j'avais fait mon temps, j'avais plus forcément envie, j'avais plus.
Ouais.
Et donc, voilà, c'est arrivé un peu. Pas par hasard. Mais les choses ont fait qu'à un moment, je me suis dit, voilà, je pense que c'est le moment, il faut que j'essaie. Mmh. Ça a toujours été un sport qui m'a intrigué, qui, quand je le voyais à la télé, j'étais trop fan. Hein.
T'avais des idoles ou des gens qui t'ont donné envie quand t'étais petite
Alors, il y en a, oui. Et il y a aussi Ranta Rousset, principalement, ouais. qui m'a énormément... C'était mon idole,
ouais.
puisque j'étais judokate, elle aussi. Mmh. Donc, elle m'a beaucoup... beaucoup aidé à passer le cap aussi, inconsciemment. Ouais. Et
C'était la méga star.
Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est elle qui ouais. a révolutionné le MMA féminin,
ouais.
hein, sincèrement.
Bah, je pense qu'effectivement, sans elle, ça n'en serait pas du tout là, puisque Dana White, peut-être un an avant de signer Ronda Rousey, disait non, il n'y aura jamais de femme à l'UFC. Et un an plus tard, elle avait une telle aura, je pense, que tu ne pouvais pas l'ignorer. Donc...
Mais c'est bien.
Ouais. Ah ouais, bah moi je. Enfin, personnellement, moi je trouve les combats féminins hyper intéressants et je trouve ça génial qu'aujourd'hui on ait des main events féminins, tu vois, dans
le
MMA.
C'est en train de venir.
Il y en a quand même régulièrement, tu vois. Alors il y a pas. Il y a peut-être moins de stars féminines dans les championnes, tu vois, que chez les hommes. Mais il y a des main events et qui cartonnent. C'est-à-dire que c'est pas. Tu vois, c'est pas. Bah non, il y a eu très peu de pay-per-view achetés où la salle n'était pas remplie. Non, il y a vraiment des combats féminins qui intéressent beaucoup.
Les combats féminins, les gens, ils adorent. Hein, ouais. Final. Puis j'avoue que les filles, elles ne trichent pas, quoi. On a ça, niaise entre nous.
Ouais.
Hein.
Ouais. Et en même temps, alors il y a plusieurs profils. Ouais. Il y en a qui sont un peu bourrins ou bourrines, mais il y en a aussi qui sont hyper techniques, tu vois. Et qui n'ont vraiment rien à envier aux hommes, quoi.
Ouais,
c'est voilà, il y a le combat qui avait été reporté, mais Shevchenko contre Jan Jacek.
Ouais.
Les deux qui sont déjà affrontés en Muay Thai avant, et je crois que c'est Shevchenko qui a gagné deux fois, il me semble. Donc ça, moi, c'est un combat que j'ai trop envie de voir, quoi.
Mm-hmm. Ah oui, c'est sûr.
Parce que les deux, elles ont un niveau technique super, et c'est pas... parce qu'il y en a qui disent « Ouais, mais le niveau chez les femmes, il n'est pas le même. » Là, techniquement, on ne peut pas dire que le niveau, il n'est pas le même, tu vois. Il y a, bien sûr, ces proportions gardées en termes de gabarit, tu vois.
Tout à fait,
Et même à gabarit égal, bon, on sait qu'en général, les femmes, elles sont moins puissantes. Donc, à poids égal, tu peux pas réellement comparer. Mais en termes de technique, de vitesse, de précision, de cardio, machin et tout, tu les vois, c'est des tueuses, quoi.
Ah oui, elles sont...
Et ouais, moi, je trouve ça génial. Et c'est dommage, tu vois, par exemple, en boxe anglaise, toi, tu disais que tu aimais bien la boxe anglaise, mais ils n'ont pas réussi à faire ça.
C'est un milieu encore un peu trop macho.
Ouais, il n'y a pas. Alors, moi, la boxe anglaise, j'ai beaucoup suivi une époque et ça fait des années qu'avec le MMA, je suis beaucoup moins et je regarde surtout les gros, gros combats. Mais à part la fille de Ali qui avait fait un petit peu de bruit en boxe anglaise, sinon, bon, il y a Holly Holm qui s'est reconvertie dans le MMA. Il y a. Comment elle s'appelle, Riker, je sais plus, celle qui a inspiré Million Dollar Baby.
Ah oui.
Ouais. Qui a pas eu du tout l'accident comme dans le film, hein. Ça c'était pour le film, mais qui était une championne et tout ça en boxe anglaise. Mais il y a eu quelques stars, mais que plein de gens en fait ne connaissent même pas, quoi.
Mm-hmm.
Et alors que quand tu regardes les combats, il y avait vraiment
combats,
quoi.
Ouais.
Il y a Matisse aussi qui était pas mal en combat. Je sais pas si tu l'avais déjà vu, elle. C'est une grande blonde qui avait, il me semble, qui a combattu justement contre Holly Holm et qui l'a battue une fois et ensuite elle...
Non, j'ai pas vu.
Ouais. Et vraiment, le niveau technique, il est bien. Et comme tu disais, il y a de l'engagement, quoi.
Ouais.
Elles font pas semblant.
C'est ça. Ouais. Après, il y a des combats d'hommes, c'est pareil.
Ouais.
C'est...
Oui.
Mais ouais. Et... vu qu'il y a plus d'hommes ou quoi, bah, enfin, je sais pas pourquoi, mais il y en a, ils se donnent pas autant, je pense, que les femmes.
Donc, tu as fait un petit peu... Donc, tu faisais du JJB. Tu as essayé un peu de boxe anglaise.
Ouais, voilà, un petit peu.
Et après, tu as vu Ronda Rousey. Tu voyais Ronda Rousey.
Ouais,
tu
je la voyais souvent. Et en fait, j'étais à Toulon avant.
Ouais.
Et avec le travail, j'ai été mutée sur Fontainebleau.
Ouais.
Et donc, c'est là où j'ai dit, bon, bah, j'arrête le rugby, j'arrête tout ça. Et j'ai cherché un club de MMA. À Toulon, j'avais essayé... Enfin, j'avais cherché un club de MMA, mais j'avais pas trouvé.
Et tu avais fait du JJB à Toulon, déjà ?
Voilà, c'est ça, ouais, d'accord. À Toulon.
Okay.
Et du coup, arrivé sur Fontainebleau, j'ai cherché un club. J'en ai trouvé un à Lys, à côté d'Evry.
Avec Johnny, c'était directement ?
Voilà,
Johnny Frachet.
Voilà. Ah, mais alors, sincèrement, je ne savais pas quel homme c'était. Hein. Johnny Frachet, je ne connaissais pas.
Ouais.
Et maintenant, quand je me rends compte que l'homme que c'est, je suis tellement fière. Je me dis, mais là, la vie est bien faite.
T'es bien tombée.
Ouais, vraiment.
T'es vraiment bien tombée. Il fait partie des pionniers du MMA. Et puis surtout, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et on a ce point commun. On est tout le temps un peu dans la recherche, tu vois.
Ah oui, c'est un perfectionniste. Ouais. Hein,
et donc, il a même son esprit qui est un peu aussi comme moi, où on aime bien développer des systèmes, tu vois.
Exactement.
Des fois, il me faisait rire quand il regardait. Je l'avais envoyé une fois une vidéo d'un judoka qui avait combattu en lutte et tout ça et qui avait réussi à adapter son judo en lutte et qui gagnait des compétitions de lutte et il avait regardé toutes les vidéos, il m'a dit c'est bon, j'ai passé toute la nuit, j'ai pris plein de notes, j'ai développé un système, machin, j'ai décortiqué son style et tout, moi j'adore.
Et ça fait longtemps de ça que tu l'as
envoyé? C'était il y a 2 ans je pense.
Ah d'accord, parce qu'il y a une période on faisait que des... prise de judo, judo, nanana.
Ah, peut-être c'était ça, hein.
Du coup.
C'était peut-être à cause de moi, de la vidéo que j'avais envoyée. Je me rappelle
même
plus du nom du mec.
J'aime beaucoup sa façon de travailler. On va pas changer de technique tous les jours.
Ouais.
Parce que ça sert à rien. On va souvent driller les mêmes techniques, driller les mêmes techniques et tout. Et après, au bout d'un certain temps, hop, on va changer et hop, on va driller pendant plusieurs semaines. Et c'est super enrichissant et au final, c'est en drillant que ça vient automatiquement et qu'on enregistre. Hein.
Ouais. Et alors, au départ, les premiers entraînements, comment l'après, est-ce que tu avais une grosse... Parce que tu avais déjà donc, quand même t'es une pratiquante confirmée dans plus, tu vois, déjà dans le judo. Avec le rugby, on peut dire que le contact, tu vois, c'est pareil, ça te faisait pas peur. Est-ce que ça a quand même été difficile, comme on voit, que ce soit homme ou femme, parfois, bah... moi, je sais que je vois des judokas, bon, bah, ils sont forts et tout, mais quand ils commencent à avoir des coups qui arrivent, bah, c'est un truc, c'est pas évident, tu vois. T'as fait des années de pratique, mais le combat pour toi, c'était pas ça. Et est-ce que toi, t'as rencontré un peu des difficultés
Alors, au tout début, sincèrement, j'ai commencé le cours avec Johnny, donc déjà, il m'a mis dans les débutants.
Ouais.
J'avoue que sur le coup, j'ai. Bon, après, moi, je dis rien, j'arrive, je fais mon petit truc, je repars. Et après, pour moi, j'avais fait du judo, donc j'avais pas à faire des trucs, des single legs, des trucs. J'ai dit, c'est bon, c'est. Et en fait, fur et à mesure, je me dis, mais en fait, je suis vraiment nulle. Et donc, oui, j'ai besoin d'être avec les débutants et tout. Et Johnny nous a tellement, parce que j'étais pas toute seule débutante, tellement bien encadrée, tellement bien pris avec sa patience et tout, qu'en fait, c'est passé crème. Et en fait, j'ai progressé petit à petit, sans m'en rendre compte. Et au final, moi qui ne suis pas du tout boxe, il a amené tellement simplement que je me suis... Sincèrement, je ne me rappelle même pas le premier sparring que j'ai fait en boxe avec transition au sol. Parce que ça a été tellement fluide dans sa pédagogie et tout que... Franchement, du coup, ça ne m'a pas choqué.
Et alors, pour les gens qui ne connaissent pas bien, c'est vrai que... Bah, la lutte et le judo, c'est des styles de préhension, donc c'est le même univers, mais c'est quand même des techniques très différentes et un mode opératoire très différent.
Ah, complètement différent, oui. C'est complètement différent. Au judo, on va beaucoup se mettre dos à l'adversaire pour faire une prise, pour le faire chuter par-dessus nous, ou les choses comme ça. Alors qu'à la lutte, au contraire, il ne faut surtout pas donner son dos.
Ouais.
Voilà, donc il y a tout ça. Et au judo, on va beaucoup de faire de sacrifices. Pour le but, c'est de faire tomber l'autre sur le dos. Que là, ouais, MMA, le mec, il tombe sur le dos, c'est pas fini.
Donc, et le fait de ne pas avoir le kimono aussi.
Ah, ça change énormément.
Ça, ça a été difficile. Est-ce que toi, tu as eu besoin de faire un travail spécifique, ou alors c'est Johnny qui te l'a fait faire, d'adapter tes techniques de judo sans kimono pour le MMA?
Ouais, alors ça, et on le travaille encore.
Ouais.
Parce que c'est vrai que mes prises. J'ai souvent. Alors, c'est marrant, c'est qu'avec Johnny, au début, on ne travaillait jamais mes prises de judo. Parce que voilà, mais à chaque fois, mes combats, ça ressort. C'est au final, comme je disais, c'est l'instinct de survie, entre guillemets, les vieux réflexes qui reviennent. Et du coup, aujourd'hui, on s'est dit qu'il fallait les travailler. Donc, on accentue un peu sur les positions des mains et tout. Parce que c'est vrai qu'au MMA, il y a la sueur, il y a tout ça. Il n'y a pas de prise. C'est super compliqué, quoi.
Ouais. Mais on a vu, bon, il y a Ronda Rousey qui est bien connue, mais il y a eu avant elle d'autres judokas. Caro Parisian, bon, toi tu suis moins le MMA depuis longtemps, mais c'est quelqu'un qui était à l'UFC, qui était super bon en judo, et qui arrivait déjà à adapter vraiment son judo au MMA. Et je pense que c'est une force si tu arrives à avoir les techniques de lutte en plus, tu vois, et que tu as le judo, c'est, parce que justement, c'est pas courant, tu vois. Donc forcément, ce qui n'est pas courant, bah, ça passe plus facilement, tu vas mieux surprendre, parce que les mecs d'en face, ils n'ont pas des partenaires qui font du judo, donc ils ne sont pas habitués à défendre ces techniques-là, même s'ils les travaillent peut-être une fois de temps en temps, mais ce n'est pas ce qui ressort le plus souvent. Et donc, enfin, là, ça, je trouve que ça se voit dans les combats que tu as faits. On voit que les adversaires, elles sont pas habituées à contrer ou à bloquer... Les
Après,
techniques de judo.
L'avantage qu'on a en tant que judoka, c'est qu'on sent direct quand il y a un déséquilibre. Ah, côté sensation, moi j'arrive à le sentir, hop, où il y a le déséquilibre, ou là. Donc ça c'est vraiment c'est un gros point fort pour nous, ça.
Ouais, c'est un gros travail de ressenti qui est hyper intéressant. On avait vu des. Je sais plus qui, il y avait un autre mec aussi, qui à une époque, à l'UFC, je crois, qui arrivait à placer pas mal de balayages. Tu vois? Et ça, c'est du timing et de la sensation. C'est hyper. Mais en plus, je trouve que c'est hyper humiliant, en fait, pour le. Parce que tu vois, en fait, à la limite, tu te prends une grosse boîte, tu vois, alors j'ai pas les termes de judo, mais ce qu'on appelle un tour de hanche en lutte, c'est. Je sais plus comment ça s'appelle.
Ouais,
en judo.
Ogoshi, ou un
voilà,
truc
les choses
comme
ça.
Comme ça.
Ouais. Bon, t'es pas content, tu vois, mais c'est une grosse projection, bam, machin et tout. Un petit balayage,
qui
te fait un peu trébucher ou un truc comme ça, et tu te rétames comme une merde. Je trouve qu'il y a un côté hyper humiliant, et en plein combat, ça peut, à mon avis, ça peut vraiment taper dans le mental de l'autre. Quoi.
Ouais, prendre le dessus, c'est sûr.
Donc ça, c'est un truc que je trouve qui est hyper intéressant, et pareil, qu'on ne voit pas beaucoup.
Non, parce que... Moi, personnellement, les balayages, ça n'a jamais été mon point fort. Hein.
C'est pas ton point fort.
Non. Non, non. Et puis, comme tu l'as bien dit, il faut trouver le super bon timing et tout.
Ouais, après, il y a des gens, c'est leur... naturellement, ils ont plus, tu vois, une préférence. Donc, ils vont réussir à placer ça pile au bon moment. Et moi, je sais que les rares fois où j'ai vu ça en MMA, je trouvais ça
C'est beau,
magnifique, quoi. Ouais. Magnifique. Et je me dis, putain, si on m'avait fait ça, ça m'aurait... je serais dégoûté, quoi. Tu vois, je me mettais à la place du mec d'en face. Je me disais, putain, c'est... C'est dur de se prendre ça en plein combat, devant tout le monde, les gens qui regardent et tout. Tu te prends à l'entraînement, tu es là, bon, c'est bon, personne n'a vu, mais là, là, tu sais que tout le monde a vu. Et non, c'est vraiment des belles techniques. Après, alors, donc, moi, ce que j'aimerais bien qu'on parle un petit peu aussi, c'est l'aspect préparation physique, diététique, ça, je sais que c'est des choses que tu aimes bien. Ouais. Et tu t'intéresses quand même aussi au bien-être. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « c'est bon, je m'entraîne comme un malade, je m'en fous ». Surtout, bon, pas que t'es vieille, mais t'es, tu vois, c'est plus une mentalité de 20 ans que de 30 ans, tu vois. Mais c'est encore quelque chose sur lequel je trouve qu'il faut un peu mettre l'accent, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de gens qui... Enfin, normalement, oui, quand c'est du haut niveau, il y a toujours un côté traumatisant, mais on n'est pas censé être complètement cassé à 30 ou 40 ans, tu vois. Donc toi, qu'est-ce que tu fais justement pour essayer de prévenir tout ça. Est-ce que tu as eu des grosses blessures déjà dans
Alors,
ta
oui,
carrière?
Ouais, je me suis fait 3 fois les ligaments croisés.
Même genou
Ouais, du même genou, ouais.
Ouais.
Et
ça, c'est combien de temps d'arrêt à chaque fois?
6 mois, 1 an.
6 mois, 1 an?
Ouais. Alors
Ouais.
après, le rugby, j'ai déjà fait 1 an de rugby sans ligament. Tout ça. Bon, j'ai encore un peu de séquelles, mais du coup, je fais beaucoup de renforcement
Ouais.
musculaire, tout ça dessus. Mais finalement, ces blessures, sur le coup, je les ai un peu mal vécues, mais elles m'ont beaucoup fait évoluer et apprendre à me connaître, notamment sur les sensations, les choses comme ça. Aujourd'hui, j'ai un préparateur physique. Donc, même si moi, je suis prof de sport, en fait, j'ai voulu avoir un préparateur physique parce que comme ça, j'ai pas besoin de réfléchir.
Ouais.
Lui, il connaît. Enfin, voilà, il sait plus. Il... Lorsqu'on a un programme, du coup, bah, on se dit, bah, faut le suivre. C'est comme ça. Que si c'est moi qui me faisais mes séances, j'ai, oh, bah ouais, demain. On
Ouais,
procrastine plus
c'est
facilement.
ça. Ouais, mais en plus, moi je sais que enfin, j'avais entendu des coachs de prépa physique et tout qui disaient il vaut mieux prendre un coach même si on est coach parce que on n'a pas suffisamment de distance souvent avec
Tout à fait,
soi-même
ouais.
et on va pas réussir. Ce qu'on ferait, les décisions qu'on prendrait pour quelqu'un d'autre, si on a un athlète à préparer et tout, pour soi, on va dire. Oui, mais alors moi je me connais, alors moi je suis pas pareil, moi tu vois, et on va croire qu'on fait bien parce qu'on essaie d'adapter, mais en fait, en général, c'est pas une bonne idée, je pense, de se préparer
Non, 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 je
soi-même.
pense pas. Après, il y en a qui arrivent, mais moi, je peux pas. Après, sincèrement, ça a été super enrichissant pour moi parce que mon préparateur physique, il m'a fait faire des exercices que même moi au début, j'ai dit, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il me fait faire là? C'est nul.
Du genre?
Par exemple, à la poulie, c'est du gainage dynamique.
Ouais.
Bon, j'en faisais jamais du gainage dynamique et tout. Et puis je lui dis, mais ça me sert à quoi? Il me fait, ah, ben, c'est pour muscler là et tout. Donc, je faisais. Franchement, ça me fatiguait pas et tout. J'ai fou.
C'est quoi des mouvements avec des rotations
Rotation ou.
ou contre-rotation
Ouais, contre-rotation ou alors lever. En fait, toute la sangle abdominale, le transverse.
Stabiliser
Ouais,
en mouvement, quoi.
stabilisation au taquet, quoi. Et j'avoue qu'après, en fait, ça m'a énormément aidé. Donc, en fait, j'en retiens, c'est que. Il m'a fait découvrir de nouveaux exercices, au final, qui sont super importants. Et que forcément, si moi, je m'étais fait ma préparation physique,
T'aurais
j'aurais
pas fait, ouais.
complètement négligé. Et aujourd'hui, si je suis un peu plus. Gainé, tout ça, enfin, c'est grâce à lui, quoi.
Il s'appelle comment?
C'est Xavier Barbier.
Xavier Barbier.
Oui.
D'accord,
Ça
je crois que
fait.
Johnny m'en a
Oui,
parlé, il me
bah,
semble.
d'ailleurs, c'est le préparateur physique
Ouais.
aussi de Johnny.
Le connais pas directement, mais ouais, j'en ai
Ouais.
entendu parler par
Très,
Johnny.
très.
Alors,
C'est
comment
incroyable.
il organise ça, du coup, ta préparation?
Alors, donc en fait, on a un petit logiciel où j'ai des séances à faire. Suivant mon état, je vais faire un peu moins ou un peu plus.
Avec
Et
Omega Wave, là, c'est
oui,
ça?
voilà, Omega Wave, voilà, c'est un truc qui mesure notre état physique, neurologique et tout. Et par rapport à cet état, on va voir l'intensité de la préparation physique.
Ouais, j'en avais parlé avec Johnny de ça
Ouais.
aussi. C'est le qu'ils appellent en anglais HRV, Heart Rate Variability. Donc, c'est les variations de fréquence cardiaque. Normalement, notre cœur n'est pas censé être régulier. Donc,
D'accord.
les gens, ils pensent que nos battements sont réguliers et que si c'est régulier, c'est bien. Et si c'est pas régulier, il y a un problème. Mais en fait, non, normalement, il doit y avoir des petites variations.
Ouais.
Et je sais qu'Omega Wave, ils font ça plus d'autres choses parce que moi, enfin, je te l'avais dit d'ailleurs, mais j'avais. Leur système, mais ça n'a jamais fonctionné. Et bon, c'était un peu une galère, mais j'ai fait l'équivalent, mais juste avec une ceinture de cardiofréquence-mètre qui mesure aussi ta variabilité cardiaque. Mais Omega Wave, il y a des électrodes en plus, il me
Ouais,
semble, hein,
c'est
c'est
ça,
ça.
voilà. On a 2 électrodes, mais c'est impressionnant parce que ça mesure l'état de fatigue, l'état neurologique, la réserve. Comment dire? La réserve de fatigue, entre guillemets, qu'on a, ou d'énergie. Ça mesure énormément de choses. Et à partir de là, ça te donne un code couleur.
Ouais.
Et par exemple, si mon cycle, c'est la puissance, donc je vais rester dans la puissance au niveau de la prépa physique. Mais par contre, si je suis dans l'orange, je vais faire un programme orange, donc un peu moins intense. Et du coup, tout est adapté au final par rapport à son état physique.
Ouais, je sais qu'il y a des équipes entières aux États-Unis de football américain, notamment, j'ai vu plusieurs fois des préparateurs physiques qui en parlaient, où eux, ils ont la version pro, où chaque athlète doit tous les matins faire son truc, et ça, lui, il arrive, et il regarde l'état de forme de chacun, et il leur fait leur entraînement personnalisé en fonction de ça. Donc, ça, c'est vraiment top, quoi.
Et je trouve que ouais, c'est vraiment pas mal, ouais.
Parce que ton ressenti, c'est une chose, mais je pense qu'il peut y avoir plein de facteurs externes. Je sais pas, quelqu'un qui t'a coupé la route, qui t'a énervé, tu t'es engueulé avec, je sais pas, quelqu'un, t'as un truc qui t'a saoulé, t'as quelque chose qui te tombe dessus, un problème au boulot, tu vois. Et d'un seul coup, peut-être qu'en réalité, t'es en forme physiquement, mais ton mental te fait ressentir pas bien, tu vois.
Ouais.
Et ça peut te permettre des fois justement de dire, bah non, tout va bien physiquement, donc j'y vais quand même. Et d'autres fois, tu peux te dire, allez, il faut y aller, il faut pousser et tout. Tu te prends un bon café, tu y vas. Mais en fait, non, là, tu avais besoin de lever un peu le pied, de mieux récupérer. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ça permet de gérer et de pas tomber dans le surentraînement. Ouais. Et tout. Mais c'est bien parce qu'avec ça, on peut pas tricher.
Mm.
Mais voilà, on se dit, ouais, non, en fait... Parce qu'on se dit souvent, ouais, faut s'écouter.
Mm.
Et bah là, des fois, j'ai pas envie ou je dis, ouais, franchement, je suis fatiguée. Là, je mesure. Ah bah non, bah en fait, bon bah ok, j'y vais. Et l'inverse, des fois, je sens, bah, comme tu dis, que je vais bien et au final, il faut que je me repose, quoi.
Ouais.
Donc ça, avec ça, on peut pas tricher et on tombe pas dans le surentraînement, c'est vraiment...
Ouais, bah quand c'est une approche scientifique, c'est sûr que c'est ce qu'il y a de plus fiable, parce que... Après, moi, je suis à fond pour la discipline, tu vois. L'autre fois, j'avais un élève qui me disait, pendant que je faisais ma muscu, oh là là, il me dit, c'est pas évident quand même de rester motivé. Parce que les gens parlent beaucoup de motivation, c'est la mode. Et moi, je dis souvent que la motivation, c'est pas quelque chose de bien sur lequel se reposer, parce que ça fluctue,
ça
trop,
varie,
en fait.
Ouais, voilà. Énormément.
Même au sein d'une même journée, alors au sein d'une semaine aussi, mais dans une même journée, tu peux te lever motivé. Moi, je sais que ça m'arrive, je suis motivé, puis j'ai ça à faire, machin et tout, et trois heures plus tard, je suis plus du tout motivé, quoi. Mais si tu t'es pris rendez-vous avec toi-même, que t'as ta séance à faire, et que tu te dis pas, c'est en option, c'est si je suis motivé... C'est voilà, tel jour, telle heure, t'as ta séance à faire, tu vas la faire, que tu sois, que t'aies envie ou que t'aies pas envie, tu vois. Alors après, tu peux. Moi, je me sers plus trop là des systèmes type Omega Wave, mais parce que j'essaye pas de me pousser en fait à fond. Je suis pas athlète de haut niveau, j'ai pas de compétition, tout ça, donc je fais ça pour moi, pour le plaisir. Et dans la manière dont je m'entraîne. Même si je suis pas en forme, je peux faire mon entraînement en fait, tu vois, parce que je fais pas des entraînements où je me pousse à bout. Et donc, il y a des fois, t'es là, oh, c'est dur aujourd'hui, mais non, c'est pas grave, tu le fais quand même, c'était prévu, tu respectes ton emploi du temps, quoi. Sauf bien sûr, si t'as une blessure, là, t'adaptes. Mais si c'est juste que tu te sens pas trop, t'as pas trop l'influx, t'as pas trop envie, pour moi, faut y aller quand même, quoi.
Oui, exactement. Puis des fois, on y va, on n'est pas motivé ou on est fatigué. On y va et on trouve la motivation, le petit truc, et hop, c'est reparti, c'est parti, quoi.
Ah, mais souvent, moi, ça m'a fait ça, et j'en ai entendu d'autres qui le disaient aussi, c'est que t'es arrivé fatigué, t'avais pas envie et tout, et en fait, t'as fait une super bonne séance, tu vois, limite, t'avais pas envie de la faire, t'aurais préféré rester chez toi, j'en sais rien. Et en fait, tu fais une super bonne séance, une fois que t'es lancé, tu te sens bien et tout, et là, je pense que c'est des fois un peu l'accumulation de ta journée qui fait que...
Oui, c'est ça.
Tu vois, t'avais pas trop envie et tout, quoi. Ça,
donc, c'est bien de s'écouter, mais bon, pas trop, pas trop non plus. Je pense qu'il faut plus s'écouter, ça va être sur les blessures, par exemple.
Mmh.
Voilà. Là, je pense que c'est important.
Ça, c'est une erreur aussi de beaucoup de gens, c'est de vouloir ignorer les blessures ou les signaux. T'as souvent, avant une blessure, t'as souvent des signaux avant-coureurs.
Et
on choisit de les ignorer, puis en fait,
C'est là.
Après, c'est là que ça mène à une grosse blessure qui va t'obliger cette fois à t'interrompre beaucoup plus longtemps que si t'avais un peu écouté et essayé de chercher à comprendre pourquoi t'as cette petite douleur qui arrête pas de venir te chatouiller le genou, je sais trop quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai.
C'est vrai.
Et donc, faut quand même écouter son corps. Mais écouter son corps, ça veut pas dire s'écouter et...
Non,
et...
pas genre on a un petit bobo, on arrête ou quoi. Mais faut savoir quand c'est grave ou que vraiment, faut s'arrêter ou quand...
Alors, comment t'organises la prépa, ou comment eux, ils organisent la prépa? Parce que, c'est vrai que moi, toujours la difficulté, le vrai challenge, je trouve, c'est trouver le bon équilibre entre développement technique, passer suffisamment de temps à pratiquer ta discipline. En plus, le MMA, c'est hyper vaste. Il y a toutes les distances de combat à travailler et tout. C'est beaucoup moins spécialisé, tu vois, que de la boxe anglaise, par exemple. Pas que ce soit... ça veut pas dire que c'est facile, mais... T'as un spectre hyper large de compétences techniques à développer et aussi de capacité physique, tu vois, parce que c'est moins spécialisé, tu vois.
Ouais.
Et donc, trouver le bon équilibre entre ça et bah, ta préparation physique, et que la préparation physique ne vienne pas gêner ton développement technique. Donc, comment il fait
Alors, moi, ce que je fais, donc, il me fait le programme, vraiment. Donc, on a un logiciel. Moi, de chez moi, je peux voir le logiciel, tout ça. Et le matin, au travail, je... Donc, soit, suivant ce que j'ai à faire, le matin, j'arrive à me trouver un créneau pour aller faire du sport. Sinon, je me lève plus tôt pour aller faire ma séance.
Ouais.
Et ensuite, le soir, je vais à l'entraînement de... Bah, soit de lutte, de sol ou de boxe, tout ça, voilà. Et ce qui est bien avec les cours de Johnny, tout ça, c'est que, oui, ils sont intenses. On a des sparring, des trucs comme ça. Mais on ne fait pas de la prépa physique comme dans beaucoup de clubs. Voilà.
Ouais.
Et je pense... Là, j'ai peut-être en énervé certains. Mais je pense que les clubs où ils font, par exemple, les clubs de boxe, par exemple, où ils font beaucoup de prépa physique,
ouais.
C'est que les entraîneurs, ils manquent peut-être un petit peu de bagages ou de choses comme ça. Ça permet de cacher. Ouais. Et je pense que quand on va faire un sport de combat, on n'est pas là pour faire, oui, un peu de prépa physique, mais pas des trucs des pompes à gogo pendant une heure, quoi.
Bah moi, j'ai déjà eu justement ce, on va dire, ce débat avec des profs, parce que bon, dans mon cours de Wing Chun, mais c'est une autre histoire, je fais une petite partie physique, mais c'est même pas énorme, mais c'est parce que les gens sont aussi là pour se dépenser et tout ça. Mais dans mes cours de boxe pied-point, on ne fait pas vraiment de physique à proprement dit. Ou alors la partie physique, bah, ça va être des rounds au pao et tout ça. Donc ouais, mais, c'est, ouais, ça reste de la technique, tu voilà. vois. Mais je leur fais pas faire de... Ils font aucune pompe. Seul truc physique qu'on fait, c'est du renforcement des cervicales. Parce que c'est important pour moi, tu vois, de, si tu prends des coups, d'avoir une nuque quand même un peu solide. Mais ça prend 1 minute 30 dans le cours.
C'est spécifique, quoi.
Oui, et puis c'est 1 minute 30 dans le cours, tu vois.
Voilà,
donc,
c'est ça.
Mais par exemple, le prof de boxe de mon club, qui est pourtant un excellent entraîneur, pour lui, c'est important de faire du physique. Déjà parce que dans les gens qui viennent, il y en a pas mal qui viennent aussi pour ce côté-là. Ils veulent un cours physique, ils veulent une dépense. Et on n'est pas sur de la compétition, hein, donc c'est autre chose. C'est plus des gens
oui,
de loisirs qui veulent, ils veulent apprendre la boxe. C'est pas en second plan, mais parfois, mais presque. C'est-à-dire
qu'ils veulent aussi
sortir... en sueur, crever et avoir travaillé leur corps, quoi.
Ah bah là, dans ces cas-là,
et,
oui.
Voilà. Et c'est vrai que moi, je lui disais, ouais, mais je préfère qu'ils fassent eux-mêmes, tu vois, tu te dis, bah, tu vois, faire des pompes, des squats, des trucs, machin, ils peuvent le faire eux-mêmes. Et il me dit, ouais, mais en fait, ils le font pas. Mmh. Et c'est vrai que, bon, tu vois, je vois que mes élèves qui viennent que à mes cours de kick, souvent, ils font pas tellement de physique par eux-mêmes.
Non, pas du tout.
Mais bon.
Je pense qu'il y en a beaucoup qui font pas de physique à côté, hein. Mais après, je pense qu'on peut vraiment bien se dépenser tout en faisant, par exemple, de la boxe.
Ouais.
Voilà, en travaillant, en sparring ou en faisant du travail spécifique, tout ça.
Ouais, il y a moyen de bien travailler son physique sans se mettre à faire des pompes et compagnie.
Ouais, travailler le cardio, tout ça, tout en s'améliorant dans la boxe, par exemple. Hein. Mais que ce soit en JJB, c'est pareil.
Bah, c'est vrai que si tu faisais de la prépa physique. Donc toi, tu fais combien tu fais tous les jours
Alors, je fais 5 fois la prépa physique 5 jours sur 7.
Ouais.
Et je m'entraîne 6 jours sur 7.
D'accord. Et c'est vrai que si 6 jours sur 7, en plus de ta prépa, il y avait encore de la prépa physique cours,
non,
là, ça serait too much, quoi.
Ouais,
là,
non.
C'est tendinite.
Et puis voilà, enfin, le soir, c'est le pour moi, c'est MMA, c'est pas...
Ouais.
Même si oui, bien sûr, c'est un peu physique, les sparring, les trucs comme ça, mais je reste vraiment dans mon domaine.
Est-ce que tu as du travail de mobilité? Est-ce que tu intègres tout ce qu'on appelle prehab en anglais, donc qui est la prévention des blessures, des automassages, des choses comme ça? Est-ce que tu fais ça ou pas?
Alors oui, bah Xavier, justement, mon préparateur physique, il me fait faire énormément, au tout début des séances, du travail de mobilité, tout ça.
Mm-hmm.
Alors voilà, au début, je trouvais ça un peu bidon. Mais au final, c'est super, super enrichissant. Même au final... Aujourd'hui, même quand je ne fais pas de séance de sport, je le fais moi-même.
Ouais.
Voilà, ouais. Tout ce qui est pareil, automassage avec une petite balle, par exemple, sous le pied, ou les rouleaux et tout pour le dos, tout ça. Je fais énormément, ouais.
Mais on voit que ça fait moi, je trouve que ça fait une vraie différence. Et ça m'arrive aussi de faire des séances que de ça. Bah, notamment si je sens des douleurs qui commencent à persister un peu trop. Voilà, je ne veux pas les ignorer et essayer de les traiter... au plus vite et au mieux, quoi. Et c'est vrai que moi, ça m'a complètement changé la vie. Avant, Quand j'avais un problème, bah, c'était forcément ostéo, kiné, tout c'est ça. Mais j'étais obligé d'aller chercher de l'aide extérieure. Et parfois, tu es là, il faut que j'arrive à trouver le temps pour y aller.
C'est ça, et alors, puis, ça traîne et tout. Ça traîne, ouais. Ça s'accumule. Après, genre, si on avait mal au coude, après, ça remonte à l'épaule. Après, ça crée un déséquilibre. Ouais. Après, on n'en finit plus. Quoi.
Bah, c'est ça, ouais. Alors que c'est vrai que quand tu as l'autonomie de... Alors, pour les gros trucs, moi, je vais quand même encore voir kiné, ostéo, tout ça, ou quand je sens qu'il y a quelque chose que j'arrive pas à régler. Mais quand tu peux au moins les petits trucs, les débuts de douleur et tout ça, essayer de les prévenir un maximum par toi-même, je trouve ça hyper important. Ouais. Quoi. Vous faites des étirements un peu aussi ou,
Oui, alors étirements, pareil, ouais. Au tout début.
Ouais.
Un petit peu d'étirements, surtout le psoas.
Mm-hmm.
Donc c'est vraiment un muscle qui fait le lien entre le haut et le bas du corps, qu'on néglige énormément. Et du coup, à chaque séance, je les tire.
Je les tire.
Parce qu'en plus, tous les déchets, entre guillemets, ils se mettent dedans, quoi.
Ouais. Et à l'approche, donc, quand t'as ton entraînement, de l'année, c'est-à-dire, comment on pourrait dire ça, habituel, et puis quand t'as un combat avec une échéance, en général, si t'es prévenu suffisamment en avance, ça se prépare sur quoi ? Sur 2 mois, sur 3 mois
Ouais, 2-3 mois.
Dès que
je le sais, hop, on met un truc en place avec le préparateur physique. Mm-hmm. Donc là, lui, on fait tout un cycle de plusieurs semaines de puissance, ensuite de force, etc. C'est lui qui gère tout.
D'accord, donc toi, tu t'en remets complètement à lui sur ça.
Ouais, alors ça, c'est un confort, vraiment. Comme ça, on réfléchit pas, on y va. Et
sur la nutrition, est-ce que c'est toi qui gères ou t'as...
Alors, j'avais un nutritionniste. Il m'a beaucoup aidé à me donner il m'a beaucoup aidé. Maintenant, c'est moi qui me fais mes. J'adore la nutrition depuis que je suis adolescente. Mm-hmm. Je suis à fond sur ça, je lis beaucoup de livres. Mais forcément, on entend de tout et de rien. Mm. Donc, on sait pas trop qui est quoi. Et puis, chacun réagit différemment. Pardon.
Ouais.
Et donc, oui, aujourd'hui, j'ai... C'est moi qui me fais ma nutrition, je sais. Après, je lis encore beaucoup de choses et tout. Mmh. Tous les jours, j'en apprends. Bah, d'ailleurs, tu m'avais donné un truc pour la réhydratation. Là, et ça m'a énormément aidé.
Ouais, ça t'a aidé, ça ?
Ouais, énormément.
Ouais, c'est cool.
Je suis pas fermée parce que je sais que le corps, quand on fait des variations de poids, plus ça va, plus il va être résistant à tout ça. Donc, il va falloir toujours trouver des feintes. En fait, c'est... Mmh. C'est jamais, jamais on se dit, voilà, une fois j'ai fait comme ça, la fois d'après, si je fais pareil, ça va faire pareil.
Ouais.
Tout le temps, faut changer.
Encore, on en avait parlé, mais encore plus chez les femmes, parce que...
Avec les hormones.
Les hormones, c'est encore plus compliqué en général pour les femmes. Et parfois, t'en as qui, tu comprends pas, ça, le poids...
Des fois, voilà,
pas descendre, il peut avoir une rétention d'eau.
On est en hypocalorie, on fait du cardio au taquet, et on maigrit pas. C'est,
Alors toi, ta stratégie globale au niveau nutritif, c'est quoi ? T'es obligé d'être en déficit calorique ?
Déficit calorique, je vais beaucoup jouer sur les glucides.
Ouais.
Les glucides, beaucoup sur la farine de blé, ça j'essaie d'éviter au maximum. Mm-hmm. Et le lait de vache.
Ok.
Énormément.
Parce que c'est les choses que tu sens que toi tu tolères pas bien ou c'est parce que tu...
La farine de blé, je gonfle comme un popcorn.
Ouais.
Et
tu penses que t'as une petite intolérance au gluten ou...
Je sais pas.
C'est la densité calorique
voilà.
Quand on regarde, bon...
En fait, c'est tous les aliments, pas forcément que la farine de blé, mais tous les aliments qui ont un index glycémique haut.
Oh, ouais.
Je vais tout de suite... J'ai une morphologie, à prendre, à prendre très très vite.
Mmh.
Bon, après, j'ai la chance de ne pas être attirée par tout ce qui est sucré et tout ça. Donc ça
tu m'as quand même dit que tu étais gourmande.
Ouais, par contre, je suis très gourmande. J'adore la rillette et le saucisson.
Pas le sucré, mais
le salé, pizza, tout ça. Ah oui. Ouais. Je suis très, très, très gourmande.
Alors, comment tu gères ça ? Parce que c'est dur de... Parce que le MMA, maintenant, on sait quand même que je pense que c'est dans les sports où il y a dans les plus gros cuttings.
Ouais, c'est très dur.
C'est... Bon, moi, je suis totalement contre, mais ça change rien puisque tant qu'en fait il y aura pas quelque chose de fait comme a fait, je crois que c'est le ONE FC là qui fait ça où ils ont carrément décalé toutes les catégories, je crois, de 10 livres Et ils font des tests de déshydratation plusieurs fois, tu vois, à différents moments avant les combats. Et si t'es trop déshydraté, t'as pas le droit de combattre, en fait.
Bah moi, je trouve que c'est pas mal, parce que c'est vrai, à faire des grosses variations de poids comme ça, et vu que la pesée est longtemps avant le combat, bah les combattants, ils se permettent de perdre beaucoup. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça, en fait. Ouais. Mais on sait très bien que pour la santé, c'est pas, on peut pas dire que c'est... Bref, sincèrement, on va pas se le cacher. Oui, c'est pas très bon pour la santé.
C'est même, ouais. Il y a les risques, on va dire ça encore, c'est les trucs gentils, genre les tendinites, tout ça, parce que t'as quand même tous les minéraux quand tu déshydrates comme ça qui quittent ton corps. Tes os, ils deviennent beaucoup moins solides. Il y en a plein qui disaient, bon, bah, Anderson Silva qui se pète le tibia, alors que ça fait des années et des années et des années qu'il kick avec. Normalement, ça ne devrait pas arriver. Il y a de fortes chances que la déshydratation lui soit pour quelque chose. Le cerveau, pareil, tu prends des coups et un cerveau déshydraté, tu vas avoir des traumas crâniens beaucoup plus facilement et peuvent donc être plus graves. Donc c'est vrai que pour moi, c'est le fléau. Et en plus, au-delà de ça, la performance, tu vois, c'est-à-dire que ça se trouve, le niveau actuel serait
bien meilleur
s'il n'y avait pas cette culture tu vois, du cutting dans le MMA, quoi.
Tout à fait, ouais. Après, tant que la pesée sera longtemps avant, de toute façon, ça sera comme ça. Mais c'est vrai que c'est assez dur de gérer. Pour moi, c'est le premier combat. Hein. Ouais. Oui, c'est même le plus dur, parce qu'il dure au final très très longtemps, plusieurs semaines.
Donc toi, ta stratégie, de ce que j'avais compris, c'était aussi de... c'est de pas faire un trop... de pas perdre... Parce que moi, je m'étais dit, pourquoi pas perdre progressivement, tu vois, pour pas avoir à perdre grand-chose. Mais toi, ce que tu m'avais dit, c'est qu'en fait... si tu perds trop, tu n'as plus la pêche pour tes entraînements, et donc tu peux pas bien te préparer.
C'est ça, et en fait, après la dernière période, on va perdre, donc les dernières 24 heures, perdre que de l'eau. Donc après, du coup, le poids qu'on perd en eau, on récupère en 2 secondes.
Ouais.
Donc que si on perd tout le poids avant, on aura du mal à reprendre le poids.
Ouais, parce que c'est pas de la triche, mais tout le monde essaie de faire ça, c'est-à-dire que... tu te pèses, mais il n'y a personne qui est...
Qui fait ce poids.
Le jour, au moment du combat, il n'y a personne qui est à la limite de la catégorie, quoi. Tu vois, c'est ça,
personne. Ouais. Et c'est ça,
donc
c'est
ça
vrai
fait
que...
un désavantage. Tant que tout le monde fait ça, c'est comme le problème dans le cyclisme de dire, ouais, il y a du dopage, mais en fait, si toi, tu dis, ok, moi, j'arrête de me doper, mais que tous les autres, ils continuent, tu ne peux pas suivre. Et donc là, c'est le même problème, quoi.
Tout à fait. Donc, et puis... après, c'est vrai, pour la santé, on pourrait se dire, parce que oui, bien sûr, la santé n'a pas de prix, hein, mais la passion prend le dessus des fois.
De toute façon, on ne fait pas de la compétition, on ne va pas combattre dans une cage pour la santé, donc c'est que tu es prêt de toute façon à prendre un petit peu de risque. Tu peux pas dire oui, tout ce que je fais c'est que pour la santé, sinon tu irais pas combattre dans une cage.
Après, moi je pars du principe que si j'ai envie de faire un truc, je rêve de quelque chose, j'irai jusqu'au bout de mes rêves. Je vais avoir aucun regret demain s'il m'arrive quelque chose, au moins j'aurai aucun regret. Je vais pas dire non, je vais pas faire ça parce que j'ai peur que si demain m'arrive quelque chose, en fait si j'avais su. Donc non, je vais aller jusqu'au bout, et puis au moins après j'aurai pas de regret, et puis voilà. Et parce c'est ça, ça me fait vibrer, quoi.
Moi, je sais que c'est ça. Je pense qu'il faut quelque chose de... déjà, juste pour supporter le cutting en lui-même, sans parler du combat qui suit derrière, mais il faut avoir quelque chose d'hyper fort, tu vois. Parce que une personne lambda, tu lui dis... toi, tu m'avais dit, c'était Johnny, je crois aussi, qui était genre à une semaine et il lui restait 5 kilos à perdre, tu vois. Tu dis à quelqu'un de... enfin, tu vois, et des gens, ils mettent des mois à perdre 5 kilos.
Comment tu vas faire et tout, non, c'est énorme.
On te dit, il faut que tu perdes 5 kilos en une semaine. Les gens disent, mais t'es malade, moi, il me faut plusieurs mois, tu vois. Donc, pour une personne lambda, d'entendre que tu perds 5 kilos en une semaine, c'est de la science-fiction, tu vois. Tu comprends pas comment c'est possible, quoi.
Ouais, c'est sûr. Après, on met les... ouais.
Donc ça doit être quand même un enfer.
Ouais, c'est un enfer.
Faut pas se mentir, quoi.
Le moral, c'est très compliqué. Ouais.
Qu'est-ce qui te fait toi, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Comment tu tiens? Comment tu craques pas? Et dans ta tête, est-ce que peut-être que derrière t'as du soutien, des coachs, tout ça qui sont là pour essayer de t'aider, mais c'est quand même toi, tu vois, qui doit réussir à au bout d'un moment, on peut dire tout
parce
ce que tu veux.
Parce que c'est vrai, quand on est avec des gens ou avec mon coach ou quoi, on se dit, ouais, on va faire ça et tout. Mais des fois, quand on est après seul chez soi,
bah oui. Ils sont pas tout le temps avec toi.
Voilà. Donc là, c'est compliqué. Mais sincèrement, la dernière sèche, j'ai un peu, je l'ai pas si mal vécu que ça.
Ouais.
Pour plusieurs raisons, et notamment avec mon préparateur mental. On a vraiment mis le doigt dessus pourquoi je faisais ça, quel plaisir je prenais à être dans la cage, et tout ça, tout ce que ça m'apportait. Et donc, en fait, je me dis, bah, oui, je fais la sèche
pour cet objectif-là, ouais, pour ces raisons-là.
Et au final, oui, des fois, sincèrement, des fois, ça a été dur, mais là, ça va. Et puis, plus je fais attention, plus je me sens mieux.
Ouais.
Et plus j'ai envie de continuer sur cette ligne.
Mais c'est vrai que moi, souvent, quand je parle parfois avec des gens de nutrition qui me disent, ouais, ça, c'est génial comme approche, machin et tout. Et pour moi, le chaînon manquant de la nutrition, c'est la psychologie. Parce que réellement, alors oui, il y a des choses qui peuvent mieux convenir à certaines personnes que d'autres et tout ça, mais réellement, c'est pas si compliqué que ça, en fait, de perdre du poids. Enfin, sur le papier, tu vois. Ce qui fait que c'est difficile, c'est la tête.
Mental, ouais.
C'est le mental, c'est les envies, voilà, avoir quelque chose de plus fort, comme quelqu'un qui dit, le médecin qui dit, bah, voilà, si tu continues comme ça, tu vas avoir une crise cardiaque ou je sais pas quoi, ou t'as tant de cholestérol, il faut changer tout. Et bah là, les gens, en général, ils le font, tu vois. Et bon, la majorité, en tout cas, le font. Donc, il faut avoir quelque chose de fort,
ouais.
Quoi.
Souvent, quand on est en manque de quelque chose ou on a envie de quelque chose, c'est le cerveau qui nous envoie cette information, cette envie, ce truc. Va manger ça, mange ça, ça te fait du bien. Tiens, t'as envie de ça, vas-y. Et donc, en fait, c'est comme si c'était le petit diable. Et moi, j'essaie de prendre du recul sur ça, de dire, mais n'importe quoi, t'as vu, je vais me faire manger ça, mais enfin, ouais. C'est qui ? C'est pas toi qui commande, c'est moi qui commande,
ouais.
Pas toi.
Moi,
je fais ce que je veux, j'ai pas envie d'aller dans ton piège, là, de manger ça. En fait, voilà, j'essaie de prendre du recul et de prendre ça, de dire, ah, tu veux me tester, tu me testes, là. Alors, okay. Tu m'auras pas comme ça.
C'est un challenge, un défi
ouais,
pour
voilà.
Toi.
Ouais, et maintenant, je prends plus, je prends du recul, je rigole un peu sur ça, ça me fait rire. Et même, de voir des gens manger devant moi, avant, je bavais devant.
Ouais.
Maintenant, je vois, non, ça me fait peur.
C'est ça que j'allais te demander, au niveau de la vie sociale.
Non, après, bon, des fois, je suis invitée à des apéros, je dis, bah non, je suis en peur de sèche.
Ouais. Les gens, ils comprennent quand même ou pas ?
Oui, ils comprennent, ouais.
Moi, je sais que moi qui ai essayé aussi pendant longtemps, plein d'approches, les nouveaux trucs, les machins et tout. Et des fois, les gens, tu leur dis, bah non, là, je mange plus ça. Ils ont un peu de mal à comprendre.
Hein. Ouais.
Alors, parce que moi, en plus, c'était juste pour mes propres expérimentations. Si toi, tu dis, non, j'ai un combat, machin, les gens, ils vont peut-être plus comprendre. Mais c'est un truc, la nourriture, je trouve que c'est un peu, pour certains, c'est viscéral, tu vois.
C'est ça.
Tout de suite tu te sens un peu tu vois genre on t'exclut genre arrête non toi Moi par exemple je bois pas d'alcool mais pas pour des raisons éthiques ou quoi que ce soit, j'aime pas l'alcool tu vois, mais souvent quand je dis aux gens bah non moi je bois pas d'alcool, en fait c'est ça les met mal à l'aise tu vois parce que ah bon mais vas-y toi bois tout ce que tu veux, moi je m'en fous tu vois, mais ça les je sais pas
moi je pense que dans tout ça il y a une question de culture.
Ouais.
Parce que l'alcool, comme tu dis, bah, c'est la fête, c'est un peu, c'est le moment convivial et tout. Et c'est comme la nourriture. La nourriture, ouais, faut manger le matin, le midi, le soir. Et si tu ne manges pas, enfin, on m'a toujours dit, oui, si tu ne manges pas, bah, tu vas être en carence, tu vas par exemple, le soir avant une compète, enfin, si le lendemain, tu as une compète, la veille au soir, il faut manger des pâtes et tout. Mais tout ça, mais c'est des mythes.
Ouais.
C'est des mythes. Et on peut passer plusieurs jours sans manger, on va pas mourir. Et c'est pas pour ça qu'on va être au fond du seau.
Bah oui.
Voilà. Et en fait, les gens, quand c'est l'heure de manger, eh ben, ils disent, ouais, faut manger, sinon je vais tomber dans les pommes ou je vais être en hypo. Alors que non, si on passe le cas, faut pas être dépendant de la nourriture. On en a besoin, mais faut pas être dépendant. Et le jour où on comprend que c'est moi qui décide... oui, là c'est bon, allez, je vais manger. C'est pas la faim qui dit ou mon cerveau qui me dit ok, ben va manger. Enfin, c'est un besoin.
Ouais.
Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est moi qui décide vraiment. Et de se dire bah non, bah là j'ai pas envie de manger, je mange pas.
Ouais, mais d'écouter aussi un peu sa faim parce que il y a aussi une grosse part d'habitude. C'est-à-dire que
exactement.
Tu sais qu'à cette heure-là tu manges, en fait tu te poses même pas la question si t'as faim ou pas. C'est ça. Bon, bah, c'est l'heure de manger, allez, je vais manger, quoi. Et t'as l'impression d'avoir faim, alors qu'en fait, peut-être t'as pas, vraiment faim, quoi. Mm-mm. Et alors, ça ressemble à quoi, pour que les gens ils se fassent un peu une idée, la journée typique, est-ce que tu comptes tes calories ou pas?
Oui, alors, ouais. Mais après, bon, moi, j'ai la chance, j'aime bien, ça me fait rire. Enfin, ouais. J'adore la nutrition, et du coup, j'ai un petit, sur mon téléphone, là, j'ai une petite application
ouais.
où je marque tout ce que je mange.
Ok.
Et
MyFitnessPal ou
c'est non. Fat Secret. Ah, mais c'est connais. À peu près le ouais. même style hein.
J'ai déjà vu, hop. J'ai déjà testé ouais.
Bon après normalement faut peser, mais j'avoue que le midi je peux pas peser, mais je sais à peu près les portions en général, la grosseur du poing c'est à peu près 100 grammes.
Ouais.
Je sais maintenant à peu près ce que ça fait une portion normale de viande, c'est 100 grammes. Donc en fait j'enregistre.
Ouais.
Après on n'est pas à 20 calories près hein, Et comme ça me donne une idée de combien en lipides je prends, combien en glucides, combien en protéines et tout. Et en fait, c'est avec ça que j'arrive à savoir à combien de calories je veux perdre ou combien de glucides, tout ça.
Ouais.
Et après, moi, j'aime bien. Et en plus, le fait de marquer, ouais. sincèrement, des fois, j'ai envie de craquer sur quelque chose. Par exemple, mon petit truc, c'est le beurre de cacahuète.
Ah, moi, j'aime bien aussi.
Et c'est vrai que les calories, ça monte très, très vite.
C'est hyper calorique. C'est horrible.
Et du coup, quand je dois le marquer sur le truc, là, ouais. je vois 100 calories ou quoi, une cuillère, je suis waouh. Du coup, ouais. ça calme.
Ouais, c'est clair que ça calme. Moi, c'est pareil. Alors, j'ai compté pendant un moment et tout ça. J'ai utilisé pas mal MyFitnessPal pendant une période. Et après, en fait, une fois que tu l'as fait suffisamment longtemps, souvent, on mange quand même la même chose régulièrement. Ouais. Et on sait les proportions, et pour moi, on n'a plus besoin. Au départ, même tu pèses machin tes aliments, et puis au bout d'un moment, bah, tu sais que tu remplis ton bol jusqu'à là, ça fait tant, ou tu fais tant de. Voilà. Et t'as plus besoin d'être aussi strict parce que tu sais, en fait, tu l'as déjà fait dans le passé, et puis bah, la balance aussi, elle va te le dire. Si, en fait, ouais. Si d'un seul coup ça monte, c'est que tu dis tiens, peut-être que je me remette à peser pendant une semaine ou que je refasse attention à ci, à ça.
Ouais, exactement. Ouais.
Mais ouais, c'est important pour moi de quantifier, quoi.
Parce que des fois, le matin, on va manger des choses, on dit ouais, bah attends, j'ai faim là. Donc du coup, on va manger un peu plus. Mais c'est vrai qu'en fin de journée, on a oublié que le matin, on a mangé plus.
Ouais. Ouais.
Et le fait de marquer, on se dit ah, mais pourquoi j'ai autant ? Ah oui, c'est vrai.
Mmh.
Donc c'est vrai que c'est bien, mais comme tu dis, on mange souvent la même chose, à peu près les mêmes quantités. Après, souvent, je tourne souvent même nombre de calories, c'est toujours pareil.
Ouais. Ce qui est pas mal, bon, après, c'est de noter, parce que t'es obligé de noter, mais si t'as fait une connerie, t'es obligé de la noter. Mais c'est aussi de si t'as des comptes à rendre à quelqu'un. Ah. Si tout ce que tu notes, il y a quelqu'un qui vient vérifier et dire « Eh, tu vois, là, ça peut être encore plus fort parfois au moment où t'hésites faire ta connerie.
C'est vrai.
Soit tu dis « Bah, je mens », mais ça, c'est pas terrible. Après, c'est... Soit t'es 100% honnête et là, ça peut être un frein encore supplémentaire.
Ouais, c'est vrai.
Tu fais quoi tu fais combien de repas par jour ?
1, 2, 3, 4, 5.
5 repas.
5 repas.
Genre 3 principaux et 2 collations.
Voilà, c'est ça. Ouais. Le matin, le midi. Donc je mange à 11h30 midi.
Ouais.
Le matin, je mange à 7h30. Après, donc je m'entraîne le matin, mais je m'entraîne à 10h. Donc après, je vais manger à 11h30. Après, je remange vers 15h.
Mm-hmm.
Après, avant l'entraînement, collation. Et après, le soir, après l'entraînement.
Alors, qu'est-ce que tu manges concrètement ?
Le matin, des œufs, j'adore. J'adore manger salé le matin.
Ouais.
Des œufs avec du pain complet de seigle, par exemple.
Ouais.
J'adore le pain, mais du coup, le pain normal, j'évite énormément. Et tout ce qui est pain complet de seigle, voilà. De l'avoine aussi, je mets dans les œufs, là, un peu de son d'avoine, de flocons d'accord. d'avoine. Des graines de chia aussi, j'aime beaucoup. Et voilà, le midi, ça va être... Le midi, c'est rare quand je vais prendre des féculents ou alors des légumineuses, tout ce qui est à peu près flageolets, des lentilles, des choses comme ça. Sinon, j'évite les féculents le midi. Bon, c'est mon choix parce que je... Après, vu que je sors d'une séance, c'est peut-être bien d'en prendre, mais bon, je sais pas. Je sais que je vais faire une collation après, voilà. Donc, en général, le midi, ça va être poisson ou viande blanche, légumes. Légumineuse, pas de laitage. Hein.
Ouais.
Ensuite, 15h, ça va être soit un shaker de protéines.
Mm-hmm.
Donc, je prends 15 grammes à peu près de protéines. Et avant l'entraînement, je prends pareil un shaker de protéines avec deux dattes.
D'accord.
Et 10 amandes.
15 grammes encore de protéines.
Ouais, 15 ouais. grammes, ouais. Ouais, oui.
Pas de créatine ?
Non.
Pas de créatine ?
Non, non, pas de créatine.
Pour la rétention d'eau, t'as peur ou...
Alors, j'ai eu une période où j'en prenais, et c'est vrai, ouais. je faisais beaucoup de rétention d'eau. Mmh. Moi, c'est pareil, j'ai une morphologie à faire que de la rétention d'eau. Enfin, ouais. Pas mal. Et c'est vrai que la créatine, ça fait un peu gonfler. Et puis le soir, poisson, légumes, un peu de pain de seigle, et puis voilà. Hein.
Tu manges du coup très peu sucré, pas de fruits quasiment.
Non, fruits, je suis pas...
Et
Des fois, laitage.
Ouais.
Petit laitage, des fois. Mais sinon, voilà.
Ça, c'est bien quand on n'a pas des envies de sucre, ouais, c'est plus facile.
Ouais. Oui, franchement. Ouais. Des fois, du fromage, j'aime beaucoup le fromage.
Ouais. C'est... fromage, ouais.
Si je vois que ben justement, je peux manger un peu de lipides, c'est bon,
ouais.
un peu trop mal.
Bah, faut aussi se faire quand même des plaisirs parce
ouais,
que
par contre, ouais.
sinon on ne tient pas dans la durée. Quoi.
Et d'ailleurs, pour revenir à ça, c'est qu'aujourd'hui, on a la chance. Par exemple, moi, j'adore les pizzas.
Ouais.
Je me fais moi-même, par exemple, la pâte à pizza, mais par exemple, sur Internet, il y a plein de trucs pour faire des pizzas diététiques et tout. Et l'autre fois, j'ai fait, par exemple, une pâte à pizza avec du blanc de poulet.
Ouais.
Et franchement, ça avait vraiment le goût de pizza, ça avait pas le goût de poulet ou quoi.
Ouais.
C'était trop bon.
bien protéiné du coup.
Ouais, voilà, bien protéiné et au final, j'ai rassasié mon envie.
Ouais.
Et ça, puis c'était pas plus calorique que ça.
Moi, j'avais essayé, j'avais pas trouvé ça fantastique, mais j'avais peut-être pas très bien fait une pâte à pizza à base de chou-fleur.
Fait aussi, j'ai pas trop aimé.
Ouais, c'était pas.
J'ai pas aimé. Il y a aussi, on peut faire aussi avec de la courgette aussi.
Ouais.
Mais c'est pareil, en fait, ça sort beaucoup d'eau.
Bah, c'est ça, ouais.
Et du coup, mais le poulet, franchement.
Ouais, ça, je connais pas.
Mixer tout ça, tac, métal, on met au fond. En plus, c'est fait super vite fait. Et en fait, ouais, il y a plein de. Même des desserts, ceux qui sont friands de desserts, il y a plein d'alternatives. Du psyllium, là, ça va compacter.
Enfin,
franchement, il y a plein de
trucs. C'est des fibres, c'est bien.
Voilà.
Ça a des fibres, donc c'est bon pour le transit et pour nettoyer tout ça. Et en même temps, ça remplit
l'estomac,
le bol alimentaire, quoi. Du coup, j'en prends plus tellement ces derniers temps, mais une époque où j'essayais d'en prendre, ne serait-ce que pour augmenter mon apport de fibres.
Et ça aide énormément pour le transit et tout, qu'on soit constipé ou qu'on ait la diarrhée, tout ça, c'est énorme.
Bah, ça nettoie, ça aide. Ça accroche un peu aussi, justement, tous les résidus qui pourraient rester un petit peu. Et du coup, ça a pas mal de
bien fait. Franchement, voilà, faire des cakes avec ça, tout ça, il n'y a pas besoin de farine. Moi, je n'utilise jamais de farine.
Ouais. Moi, j'ai eu une période sans gluten, parce que c'est la mode et j'ai voulu essayer et tout. Et au final, l'impression que j'ai, c'est que si tu ne manges pas de gluten pendant longtemps, quand tu en remanges, c'est explosif, quoi. c'est en général pas très agréable. Tu dis, oh bah zut, en fait, ouais, je suis intolérant, mais en fait, il y a un temps d'adaptation.
Oui.
Et il y a aussi la qualité du blé que tu vas manger, quoi. C'est-à-dire que si tu manges quelque chose à base de blé blanc d'une qualité inférieure, tu vois, ça ne va pas du tout avoir les mêmes effets que si tu prends quelque chose à base de farine complète ou tu as des blés anciens maintenant, tout ça. Moi j'ai une marque de pâtes là italienne qui s'appelle Rumo, il y a des pâtes complètes, elles sont super bonnes et l'indice glycémique est beaucoup plus bas et franchement tu vois, j'ai aucun problème à manger ça, quoi. Mais bon, j'ai grandi en mangeant plein de pain, de trucs comme ça, et ça, j'avais pas plus de problèmes que ça, tu vois. Non,
c'est vrai que même il y en a qui ont dit oui, mais les anciens ils mangeaient beaucoup de pain, de trucs comme ça. Ouais, mais la qualité du blé, c'était pas du tout le même non plus.
C'est ça.
Et puis aujourd'hui, il y a tellement de produits chimiques dans tous les aliments que on devient un peu plus sensible aussi. Hein.
Ouais.
Moi, c'est pareil, le gluten, je suis pas très... J'essaie d'éviter un petit peu...
Et niveau complément alimentaire, tu prends des choses ?
Alors du coup, je prends de la whey.
Ouais.
Je prends tous les matins un comprimé de multivitamines.
Ouais.
Et de l'oméga 3.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que je prends d'autre ? Ça. BCA, j'ai arrêté, j'en prends plus trop.
Là, t'as assez de magnésium dans ton multivitamine, tu prends
pas... Oui, voilà. Si. La multivitamine, il y a magnésium, tout ça, il y a vitamine, tout ça.
Vitamine D.
Ouais,
et
ça, je pense que c'est important de prendre puisque on transpire pas mal. Et juste avec l'alimentation, on n'arrive pas à avoir assez d'apport.
Mmh.
Donc, et c'est dommage, c'est qu'en France, on est assez. Les compléments alimentaires, c'est un peu un sujet tabou.
Ouais.
Pour beaucoup.
Ouais, les gens.
Bah, y en a beaucoup qui disent ça comme de la drogue, enfin, ouais. Un peu de la triche ou quoi. Alors que...
bah, déjà, là, ouais, les gens, il y en a qui croient que c'est du dopage.
Voilà.
Tu parles de créatine, c'est pareil. Alors que c'est un truc. C'est
pense le... aux bodybuilders, tout, ouais, ça, voilà. Tout ça. Alors que pas du tout, on est un des seuls pays européens à être vraiment un sujet, enfin que ce soit un sujet tabou. Mmh. Les autres pays, c'est ok, l'hiver arrive, on va faire plus, on va prendre des compléments en magnésium, mmh. Des trucs comme ça, c'est normal quoi.
Ouais, ouais.
Mais nous, on fait une, ouais, fixette dessus.
Ah, moi j'essaie d'en faire prendre à mes parents et ils sont là, oui, mais c'est bon, on a déjà assez de médicaments à prendre.
Oui,
je
voilà,
dis, mais c'est pas
contre,
des médicaments.
Voilà.
C'est... c'est
par contre, les médicaments, ça dérange pas de prendre.
Ah ouais,
hein.
Non, ça. ouais, je sais pas, c'est bizarre. Alors que c'est vrai que ça fait une différence quand même, tu vois.
Complètement.
Bah, ouais. Surtout pour les sportifs, mais même pour les seniors, tu vois. Au bout d'un moment, bah, dans la longévité et tout, si t'as les bons apports, ton niveau d'énergie et tout, surtout si tu fais pas en plus hyper attention à l'alimentation. Alors, c'est pas une excuse, c'est pas parce que tu prends un multivitaminé que t'as le droit de faire n'importe quoi derrière. Mais ça peut un peu limiter la casse, quoi.
Ouais.
Ça, c'est...
Ah oui, non, c'est sûr.
Et alors, on va terminer sur un dernier truc. Donc là, récemment, t'as gagné la ceinture. Donc, c'est l'European Beatdown.
Beatdown. Oui.
Donc, c'est un premier palier vers ton rêve, je suppose.
Oui, oui.
C'est déjà un mini-rêve, on va dire.
Ouais.
Je pense que, bon, c'est peut-être l'UFC qui te fait,
ouais, ça me fait
qui
rêver.
Fait rêver.
Ça. C'est mon objectif.
Mais c'est déjà une première étape... Qu'est-ce que ça t'a fait? Comment tu peux décrire un peu ce qui s'est passé dans ta tête quand t'as gagné, quand t'as remis la ceinture?
C'est passé trop vite.
Ouais.
C'est passé trop vite, j'ai pas réalisé. En fait, pendant des semaines, je me prépare, pendant voilà, super longtemps, j'ai ça en tête, la ceinture. Enfin, le combat, plus le combat, parce qu'au début, j'étais vraiment sur la ceinture. Et avec mon préparateur mental, il m'a dit, mais faut pas que tu te focalises sur la ceinture, c'est le combat avant tout. Prends comme si c'était un combat normal.
Mm.
Parce que sinon, je me monte trop la tête.
Bon, ouais.
Après, je me fais des nœuds au cerveau. Hein. et du coup, quand c'est arrivé, bah, j'ai pas compris. C'est arrivé trop vite. Et là, je revois des photos, je me dis, mais c'était tellement bien. L'émotion, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas avoir assez de mon corps pour recevoir toutes les émotions positives et tout. C'était tellement, tellement immense, parce que je me revois il y a 2 ans en arrière. Deux ans en arrière où j'avais pas encore fait de MMA, je commençais à peine. Et me dire, mais, enfin, en fait, je suis partie de rien et me voilà là. Mais jamais je me serais dit, j'aurais jamais parié sur ça, quoi.
Et c'est avec déjà, ça t'était arrivé de ressentir quelque chose d'un peu similaire,
non,
dans les autres sports ou...
Jamais.
Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Mmh. Déjà, la sensation dans la cage, j'ai jamais ressenti ça. C'est exceptionnel. Et d'ailleurs, c'est pour ça, je pense que on y retourne.
Ouais.
Tous les combattants, ce petit truc de folie, d'adrénaline et tout, bah on y retourne. C'est parce que ça, on l'a pas dans la vie courante.
Ouais. Et alors, est-ce que c'est pas trop dur, justement, l'après ?
L'après, c'est très dur.
Ouais.
Très, très dur. Ouais, c'est très dur parce qu'en fait, il y a toute la pression qui retombe. On est vachement entouré sur le combat, machin, machin. Et d'un coup, on se retrouve... je me rappelle du dimanche. Bah, du coup, j'avais combattu le samedi soir. Et dimanche soir, bah, j'étais... dimanche ou lundi ? Enfin, j'étais seule chez moi. Et là, je me suis dit, waouh. Et là, la fatigue, tout retombe, en fait. Je pense qu'avant, c'était les nerfs qui tenaient tout. Et là, et du coup, la fatigue, le moral, pareil, ça en prend un coup, alors qu'au final, j'ai gagné. Mais dire, tiens, c'est déjà fini, je sais pas, c'est...
Ouais. Je pense que la solution... Enfin, j'en sais rien, mais ce que je me dis, c'est qu'il faut peut-être rapidement se refixer un autre objectif derrière.
Ouais.
Parce que c'est ça qui... Enfin... Là, j'ai commencé à écouter un peu... non, j'ai écouté d'ailleurs en entier un podcast de Joe Rogan avec Tyson Fury, qui est un boxeur, et qui en parle librement, mais qui a fait une grosse dépression. C'est-à-dire que son objectif, c'était de devenir champion du monde, et il s'était fixé de battre Klitschko, qui était le champion pendant je ne sais plus combien d'années dans les poids lourds, que lui, il a vu pendant qu'il était boxeur amateur et qu'il le voyait et tout ça. Et puis, il a réussi à le battre. Et il dit, en fait, après, il y avait, en fait, j'avais l'impression d'avoir atteint mon truc. Et il est tombé. Ouais. Et de plus rien avoir derrière, c'était, bah, ça y est, je suis arrivé là où je voulais arriver. Et il est tombé. Mais il a pris 100 kilos. Il a commencé à faire à prendre de la cocaïne, de l'alcool et tout ça. Il a voulu se suicider. Et il a arrêté pendant, je sais pas, plusieurs années, 2-3 ans, je crois.
Ah oui, oui. Ouais.
Et du coup, il parlait de ça. Je trouvais ça intéressant parce que c'est pas le seul, tu vois. Je pense des sportifs de haut niveau qui se fixent un objectif, qui atteignent cet objectif, et après, tu vois, c'est pas une chute, mais c'est l'après, justement, qui est pas facile à gérer.
Pourtant,
quoi.
On devrait penser, ouais, c'est bon, t'as gagné. Mais non. Après, moi, aujourd'hui, c'est différent puisque mon objectif, il est encore plus haut.
Il est encore plus haut, ouais.
Mais j'ai quand même ce petit ressenti de oh là là, ouais. Mais heureusement que Johnny est derrière moi, lundi on est reparti, là voilà, on a recommencé les entraînements, tout ça, c'est parti.
Et avec donc l'European Meetdown, t'as un contrat ou c'est juste s'il y a un combat,
il me contacte, mon manager, tout ça, c'est
ok. Donc là pour l'instant il y a rien de prévu pour la suite,
pour l'instant non. Après, on en a parlé avec Johnny, on préfère attendre quelques mois avant de recombattre, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à travailler encore. Mm-hmm. Donc début d'année prochaine, février-mars, j'espère.
Mais donc, tu devrais rester avec cette organisation-là pour l'instant
Je sais pas.
Je sais pas, ça va être en fonction de si on te propose.
Voilà, tout à fait, ouais. Il n'y a rien de figé. Mm. Pour l'instant, je reste entraînement. Je pense pas au prochain combat.
Ouais. Pour l'instant, tu penses à progresser.
Voilà, progresser dans mon... Ouais. Voilà. Après, le reste, on verra. Jusqu'à maintenant, tout ce qui m'est arrivé, c'était un peu l'inattendu. Mmh. C'était un peu comme ça. Et puis la vie est bien faite.
Ouais.
La vie est belle.
Bon, bah, génial. Bah, écoute, merci. Moi, ça m'a fait plaisir.
Merci beaucoup à toi pour
l'invitation. Et de toute façon, on tiendra au courant les gens de la suite de tes aventures. Et puis, à bientôt.
Merci.
Allez, à bientôt. Ciao.